Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Françoise.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, ravie de vous accueillir.
Je suis très émue de vous avoir au téléphone parce que longtemps, je vous écoute presque tous les soirs étant seule.
Merci.
Et je vous trouve extraordinaire, vraiment. Je vous assure que vraiment. Cette douceur dans la voix, cette gentillesse, cette sensibilité extrême, comme ça vous êtes à l'écoute des gens vraiment et vous voulez les aider, vous voulez les comprendre.
Vous êtes adorable. Oui, j'essaye. C'est vrai que je m'implique parfois un peu trop. Mais bon, alors je vais essayer de voir un petit peu avec vous, justement, oui. Ce qui fait que ce soir, Françoise, vous avez finalement décidé de m'appeler, alors que vous écoutez depuis longtemps et jusque-là, vous ne l'aviez pas fait.
Oui, parce que j'hésitais, parce que j'ai pas envie d'être connue,
j'ai pas envie d'être un peu timide
aussi, parler comme ça à la radio où tout le monde entend. C'est un peu difficile pour moi.
Vous pouvez, si vous voulez, ne pas donner trop d'éléments qui pourraient permettre de vous identifier, voyez, si vous voulez, pour préserver un relatif anonymat. C'est l'avantage de la radio par rapport à la télévision.
C'est vrai, je vais tâcher. Je vais tâcher de donner le moins de choses qui rappellent ça. Mais voilà, je vous appelais pour que je vois un peu plus clair en parlant avec vous.
Oui.
C'est que j'ai jamais trouvé ma place au sein de ma famille, avec mes sœurs surtout. Je suis l'avant-dernière de quatre sœurs. Dans la famille, on était trois garçons et quatre filles. Et moi, j'étais l'avant-dernière et j'ai beaucoup souffert de leur indifférence, de leur ils s'impliquaient pas envers moi et ils m'aimaient pas. Et moi, je me battais pour qu'on m'aime. Je faisais tout pour plaire. Je voulais pour moi une fratrie, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Ma grande sœur, elle a enseigné après la classe de troisième.
Oui.
Et elle a pris ma petite sœur sous son aile et l'a tout de suite introduite dans sa classe, dans sa première journée d'école. Et depuis, elle n'a cessé de la prendre comme si c'était elle, sa seconde maman. Et
la petite dernière, donc celle qui est arrivée après vous. Oui.
Voilà. Et j'en étais blessée. Ça m'a beaucoup fait mal. Quelle fait cette différence? Moi, pour moi, ma grande sœur, elle nous protège, nous, les deux petites sœurs qu'on était. Et le fait qu'elle fasse ça, je me battais pour qu'elle...
Oui, vous auriez aimé exister à ses yeux aussi.
Voilà, exactement. Et je ne faisais pas attention du moment que mon père et ma mère m'aimaient beaucoup, énormément.
Ah, j'allais vous demander, où étaient vos parents? Vous vous sentiez aimée de vos parents?
Ah oui, beaucoup. D'accord. Mon père, j'étais sa princesse. Je faisais un peu la différence dans la famille parmi mes sœurs. Celle qui est comme ça, longiligne, assez des traits, un joli visage, que les gens me faisaient des compliments, je veux dire, par rapport à elle. Je ne sais pas.
Oui, par rapport à votre sœur aînée.
Oui, voilà, mes sœurs.
Vous voyez, c'est peut-être pour ça que votre sœur aînée, elle était un peu jalouse de vous. Vous dites que vous étiez la princesse de votre père, on vous complimentait sur votre physique, on vous disait que vous étiez jolie. Elle était peut-être un peu jalouse, au fond.
Elle n'aimait pas ça, du tout.
Forcément.
Elle voulait que je disparaisse, au point que même mon autre sœur et ma petite sœur étaient toutes les deux comme ça. Alors, quand j'ai grandi à l'adolescence, je ne supportais plus qu'on me fasse toujours des crasses, qu'on me faisait pleurer, qu'on était vraiment méchante et envieuse de ce que je pouvais avoir. Alors, j'ai souffert au point de me jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire, j'ai foutu le camp et je me suis dit, je me battrai, j'arriverai, en dehors de ça, il faut que je réussisse dans ma vie. En dehors d'elle, parce que j'ai beau chercher leur affection, leur amour, j'en avais pas. Ma mère, elle comprenait pas, elle me disait, oh, tes sœurs, elles banalisaient les choses, c'est rien, ta sœur, elle va revenir, l'autre s'enferme dans la chambre que je partageais avec elle, la deuxième, qui était aussi méchante qu'elle, Alors je disais, mais toi, tu fais de la coiffure, tu as tout ton temps, maman te gâte, tout ça, mais moi, je dois aller au lycée, j'ai des devoirs, je dois me concentrer, j'ai besoin de calme. Elle n'ouvrait pas la porte, elle me laissait, je devais quitter la maison pour aller voir des copines pour travailler avec elle. Et quand je rentrais, c'était l'autre sœur qui disait, attends, papa, il va te frapper parce que tu étais avec des garçons, tu n'allais pas étudier, c'est pas vrai. Elle voulait que je souffre, elle voulait que je sois malmenée par mon père pour foutre
mais
le
parce
camp.
qu'elles étaient jalouses, en fait, de la place que vous aviez dans le cœur de votre père. Vous étiez la préférée de votre père. Et on voit que c'est jamais simple d'être l'enfant préféré. Parce que, finalement, ça peut créer une solitude, la solitude que vous avez ressentie au sein de votre fratrie. Parce que quand un enfant est préféré, mais forcément, il est un peu mis à l'écart par les autres frères et sœurs qui lui en veulent, alors que l'enfant, il n'a rien demandé.
Exactement, c'est exactement ça. Et je cherchais désespérément à lui dire que je t'aime. Tu vois, je te fais la chambre pour que tu la trouves toute propre, pour que tu n'engueules pas maman qu'elle n'a pas fait ci ou ça, parce qu'elle était un peu à se chamailler parfois avec ma mère. Et je ne voulais pas ça. Oui. Alors, tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle faisait, je le faisais derrière, même petite que j'étais, je faisais tout. Et à l'autre aussi, ma mère m'envoyait, ah oui, elle va bientôt me présenter. Oui,
cette souffrance, pardonnez-moi, je vous interromps, mais Françoise, vous dites que finalement c'était tellement insupportable pour vous qu'à un moment vous êtes partie de la maison et vous êtes jetée dans la gueule du loup, c'est-à-dire.
Oui, c'est-à-dire qu'après, n'ayant pas d'expérience, n'ayant pas averti de ce que la vie peut me réserver, je suis tombée sur un homme qui m'a malmenée toute la vie et j'ai pris ça. Pour moi, et je ne me suis jamais plainte à la famille, je n'y suis jamais pu retourner. Et je suis restée avec cet homme vivre une trentaine d'années, un peu plus, vivre dans un cauchemar pas possible, épouvantable. Et j'en sors très traumatisée d'ailleurs.
Mais quand vous parlez de cauchemar, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait? Il était violent avec vous?
Oh, il a été violent à un moment donné. Maintenant, il est décédé il y a 3 ans, mais j'ai pas vécu, si vous voulez. J'ai traversé la vie avec tous les aléas que j'ai pu surmonter.
Qu'est-ce qui se passait dans votre couple, pour parler de cauchemar?
Oui, c'était pas un couple, parce que lui, il vivait comme un homme célibataire tout en étant avec moi. Il m'utilisait pour être bien lui-même. Il était auto-centré. Et moi, je ne signifiais rien. Et moi, je voulais y croire. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je cherche l'amour des autres. Alors, je me bats, je lui donnais tout. Je m'oubliais complètement. Tout ce que j'avais comme rêve d'aller apprendre des langues et puis devenir, travailler dans une ambassade. J'avais de grands, de l'ambition, j'ai tout laissé de côté et je me suis consacrée qu'à lui.
Alors on va continuer à se parler, Françoise, tranquillement. Ce sera après les infos de minuit. Ne raccrochez pas.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Pendant une demi-heure encore, l'antenne d'RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Si vous désirez me parler, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Vous pouvez également appeler le standard pour réagir à un témoignage en cours d'émission ou peut-être parce que vous avez écouté en podcast certains témoignages qui vous ont marqué sur l'appli RTL ou sur le site rtl.fr, puisque beaucoup d'entre vous écoute Parlons-nous en podcast et je vous embrasse. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous ou par SMS au 64 900. On va retrouver Françoise. Merci d'avoir patienté, Françoise.
Je vous en prie.
Alors, donc, vous me parliez. Au départ, déjà, vous avez eu du mal à trouver votre place dans votre famille, notamment dans votre fratrie. Finalement, vous êtes partie et là, vous êtes tombée sur un homme un homme qui a été votre mari pendant 30 ans, qui est aujourd'hui décédé. Vous dites 30 ans de cauchemar, où finalement, vous vous êtes complètement oubliée dans cette relation, au point de vous aviez de grandes ambitions, travailler dans une ambassade, me dites-vous, et finalement vous y avez renoncé. Vous avez travaillé ou pas, finalement?
Ben, je n'ai pas poursuivi, mais j'ai travaillé quand même ici et là pour survivre. Oui, j'ai travaillé dans l'administration, dans l'hôtellerie, dans plein d'endroits pour essayer de pallier. Il fallait bien vivre. Mais voilà.
Et vous avez eu des enfants donc avec cet homme?
Oui, j'ai eu des enfants. J'ai eu deux filles et un fils. Oui.
Deux filles et un fils, d'accord, qui sont grands aujourd'hui.
Ils sont grands, mariés,
d'accord.
Ouais.
D'accord, vous vous entendez bien avec eux?
Pas toujours, non. Pas toujours.
D'accord. Non.
Enfin, de ce traumatisme dont je parlais tout à l'heure avec leur père, ils en ont souffert aussi. Alors, un peu être en dehors de tout ce qu'ils ont vécu, ils veulent pour essayer de vivre une vie beaucoup plus sereine. Alors, je les comprends parce qu'ils ont souffert, mais ça restreint un peu la relation n'est pas la même.
Oui, ça a aussi des répercussions sur eux. Mais finalement, au fond, alors est-ce qu'il est décédé il y a combien de temps, votre mari?
Il y a maintenant 3 ans.
D'accord. Finalement, pour vous, depuis qu'il n'est plus là, vous vous sentez revivre un peu?
C'est curieux, je voulais vous en parler justement. Je devais me sentir un peu libérée de tout ce qu'il a été pour moi, tout ce qu'il m'a fait comme mal et de me libérer. Mais curieusement, il est toujours présent dans mon esprit. Il est toujours. C'est comme si ça continuait d'une autre manière. C'est-à-dire, malgré que j'ai le temps pour moi, je peux sortir, j'ai plus à me soucier de ça. En même temps, je me sens prisonnière. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait que.
Quel âge avez-vous?
Ben, j'ai 67 ans et j'ai peur de l'avenir parce que j'ai laissé beaucoup trop de temps passer sans saisir les opportunités parce qu'il était extrêmement, extrêmement jaloux, même maladivement jaloux. D'accord. Et il m'a isolée de tout au point que chaque fois que j'avais une opportunité, que quelqu'un voulait s'approcher de moi, j'en avais une peur bleue parce qu'il pouvait être violent, il pouvait me créer des problèmes. Et je disais, ben, c'est pas la peine d'en avoir plus que j'en ai déjà, que j'ai déjà comme problème. Donc, je m'isolais de tout, même j'allais
donc,
plus voir.
Oui, vous n'allez plus voir même des amis, vous voulez dire, ou la famille?
Alors, quand il y avait quelqu'un, il avait toujours une critique pour dire qu'elle n'est pas bien, que cette fille, elle est ceci, qu'il créait il voulait créer des disputes, des choses, des désaccords. Mm-hmm. Il pouvait vraiment m'ennuyer beaucoup et me faire beaucoup de mal. Alors, j'en avais déjà assez avec lui. Oui. Je ne voulais pas, alors, du coup, je n'avais pas d'amis.
Il vous a isolé finalement.
Il m'a isolé pour mieux m'occuper de lui et n'avoir que lui. Comme ça, j'ai pas la chance d'avoir d'autres gens qui peuvent m'aider à y voir plus clair, à me conseiller, avoir l'opportunité. Quand j'allais dans certaines associations et j'ai rentré, moi je suis très spontanée et très enthousiaste quand j'ai de la joie, je la manifeste. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il utilisait ça pour m'attaquer après. Ah oui, tu dis ça, peut-être tu parlais de cet homme que tu es sorti avec lui et tu me racontes des histoires. Tu n'es que ceci, tu n'es que cela. Finalement, et tu traînes pas savoir où. Mais comment il peut parler de moi comme ça quand je m'aperçois aujourd'hui, j'ai laissé passer beaucoup
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites comment vous avez pu supporter ça pendant 30 ans pendant... Grand pas. Parce que c'est ça. C'est vous restez aujourd'hui avec ce poids au fond.
Exactement. Vous êtes. Je savais que vous pouvez comprendre ça. C'est un poids énorme, un fardeau immense. Et dans je suis. Bien sûr, je suis libre aujourd'hui. Je circule. Je peux aller ici et là sans avoir. Mais il y a ce poids qui s'en va pas.
Non, il y a une forme de. Ben parce que. C'est la jalousie comme ça, maladive, enfin, ça peut créer une forme de prison psychique. Alors pour celui qui est atteint de jalousie pathologique, mais aussi pour le conjoint qui partage sa vie. Tel point, c'est si vous étiez privé de... Vous dites que même votre personnalité, alors que vous êtes quelqu'un de plutôt spontané, qui a des élans, d'enthousiasme, de gaieté, comme si lui n'avait de cesse de vous éteindre, au fond.
Exactement, c'est vraiment ça. C'est c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cet enthousiasme, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas plus heureuse que, parce qu'il enviait l'énergie.
Qu'est-ce qui vous rendait heureuse, finalement?
Voilà. Quand je pensais au départ qu'un homme, c'est vous encourager à aller de l'avant. Si quelque chose vous fait plaisir, il veut bien. Il va vous dire tant mieux, fais-le. Si tu te sens capable de faire ça, moi je t'encourage. Je sais pas, un homme qui vous veut du bien, c'est ça. Lui, c'est tout l'inverse. Quand il me voit comme ça, il veut pas, parce que je lui échappe. Je risque d'avoir une chance avec quelqu'un d'autre qui pourra apprécier ça.
Mais vous voyez, vous voyez en même temps, François, je me dis, vous me disiez que vous avez été très aimé de votre père. Donc, ce qui m'interroge, c'est que généralement, quand une fille comme ça a été très aimée de son père, alors ça peut créer une difficulté chez elle dans sa vie amoureuse, parce qu'au fond, le père reste tellement présent. Sa tête en tout cas, qu'aucun homme ne trouve grâce à ses yeux. C'est-à-dire que c'est mon père un peu ce héros, et finalement l'attachement demeure au père plus qu'aux hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie. Vous qui avez été, me dites-vous, la fille préférée de votre père, très aimée, je me demande qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous êtes restée comme ça avec un homme qui vous a, lui, si mal aimé, emprisonné parce qu'il était malade en fait, hein, la jalousie à ce niveau-là, c'est de la maladie, et que finalement, alors que vous travaillez, c'est-à-dire que vous aviez une autonomie quand même financière, il y a quelque chose qui vous a empêché de partir. Comment vous l'analysez ça? Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que
je ne sais pas. Justement.
Et renoncer à vos rêves, même, d'ailleurs.
Oui, oui. Je
vous voyez, c'est quelque chose qui me surprend, ça. Puisque vous n'avez pas manqué d'amour. Parfois, on va se jeter dans la gueule du loup, comme vous dites, parce qu'on peut prendre, considérer, par exemple, la jalousie peut être, au départ, quelqu'un qui se montre jaloux. On peut se dire, oh, qu'est-ce qu'il m'aime? Qu'est-ce que je dois être importante à ses yeux? Qu'est-ce que je dois compter pour qu'il ait besoin de moi tout le temps, qu'il veuille ma présence en permanence, qu'il soit jaloux des autres hommes?
Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une absence d'amour au départ. Et vous êtes tombée sur un homme qui était malade. Oui. Et finalement, cet homme aujourd'hui n'est plus là, mais vous restez dans votre prison mentale un peu. Vous me dites, ça continue autrement, mais ça continue. Qu'est-ce qui continue au juste?
C'est-à-dire que je me dis, comment est-ce possible, moi, je suis douce, mais à la fois, je sais ce que je n'aime pas. Et pourquoi j'ai accepté qu'un homme comme celui-là, qui est loin d'être mon idéal, que je reste avec lui, que je me dise que c'est mon destin, que je supporte l'insupportable, que je vive cette vie, que je fais...
Ce qui est intéressant, c'est que vous commencez par quelque chose de l'ordre de ce que vous avez vécu comme un rejet de la part de votre sœur aînée. Et là, on parle de cet homme qui, lui... vous aimez trop, vous aimez mal, vous voulez pour lui tout seul. Mais dans chaque cas, comme si vous étiez extrêmement démunie, sans défense.
Oui.
C'est ça qui vous questionne aujourd'hui, finalement. C'est au point de, par moment, de vous en vouloir. Enfin, parce que vous parlez de ces rêves aussi que vous avez abandonnés. Enfin, c'est douloureux, ça. Cette remise en question que vous faites, là, je trouve.
Oui, voilà, c'est ça. Je me questionne sur tout ça.
Oui,
je me dis, pourquoi j'ai pas pris...
Oui, pourquoi vous n'avez pas pu... c'est-à-dire que c'est intéressant, votre question. Mais pour qu'elle ne soit pas... il faut pas que ça se retourne contre vous. Que ça ne devienne pas une rumination. Vous vous en prendriez à vous-même. Parce que finalement, ça serait continuer à souffrir.
Exactement.
Là, vous continuez à souffrir, pas parce qu'un autre vous fait souffrir, mais parce que vous-même, vous voyez, vous torturez. Vous vous torturez de dire, ma pauvre fille, t'as pas été capable de réagir, t'as pas... Voilà.
C'est-à-dire que, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est-à-dire que je cherche à comprendre qu'est-ce qui m'a mené à ça.
Oui.
Qu'est-ce qui est sous-jacent de de cette envie de me faire aimer par quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui m'utilisait, qui me malmenait, qui me dormait par terre dans des lieux infâmes et tout ça. Et je le suivais quand même, tête baissée, comme si moi, je n'existais pas du tout. Alors que moi, je sais que j'ai eu de l'importance aux yeux de mon père. Oui. Et pour moi, l'idéal d'un homme, c'est un homme courageux, qui prend la famille en main, qui ne va pas comme si on était deux célibataires. Il n'avait pas la notion de famille, de rassembler, de prendre soin de sa femme.
Mais parce que certainement, en fait, il était tellement... Enfin, il vous voulait vous. Peut-être que même les enfants... C'était pas forcément un père, c'était il voulait quelqu'un.
Absolument. Vous dites, vous avez tout compris, c'est vraiment ça. Il voulait moi, me pomper tout ce qu'il y a en moi de bien pour nourrir sa personne qui était vide, qui n'avait rien à m'apporter. C'était stérile. Moi, je suis fantaisiste, j'aime bien qu'on me surprenne. Voilà, on va voir un film, qu'est-ce que tu penses? On va discuter, on lit un bouquin, on va dire oui. Parce qu'on parle, c'est intéressant, on va faire une promenade, je ne sais pas. Moi, j'ai mille idées dans ma tête. Et lui, c'était vraiment comme deux vieux de 100 ans avec des pantoufles à regarder. Oui. Et il ne me dit pas, toi, tu aimes le cinéma, on va aller au cinéma. Il va me dire, si tu veux aller au cinéma, ben vas-y, moi, ça ne m'intéresse pas.
Oui, il vous éteignait.
Il s'en fichait. Ah oui, il avait du dédain et ça, je supportais tout ça, ce qui me questionne aujourd'hui.
Vous avez fait des lectures par rapport à ça? Parce que dans les mots que vous utilisez, comme si lui était vide, peut-être d'ailleurs, et qu'il se nourrissait de vous, au fond, de votre énergie. Est-ce que vous avez fait des lectures ou fait un travail depuis son décès?
J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé les personnes qui puissent me comprendre, m'aider et m'accompagner pour que je sorte de là.
Oui, vous avez cherché comment alors?
Je suis allée au CMP, c'était vraiment nul. Je suis partie en courant parce que la dame me regardait. Je parle, clignait des yeux. Quand j'essayais, j'aime bien l'écoute active. C'est comme la vôtre. D'accord. Comme ça, vous me questionnez, je vous réponds, puis je réfléchis avec vous. Et là, je vois plus clair dans ce que j'ai à dire. Tandis qu'elle était là. Et que je finisse le temps. Allez, prochain rendez-vous. Moi, je ne suis pas venue pour...
Vous n'arriviez pas à mettre... ce n'était pas productif pour vous.
Voilà. Je ne me sentais pas comprise, prise en compte de ma souffrance. C'est comme si je l'agaçais. C'est comme si, c'est banal.
D'accord.
C'est
rien, vous l'ennuyez, oui. Ce qui n'était pas forcément le cas. Mais en tout cas, vous ne trouviez pas l'écoute que vous recherchiez. Et alors... Oui. Et vous avez essayé de voir quelqu'un d'autre, parce que parfois, c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour trouver quelqu'un avec qui on se sent bien. Ce n'est pas toujours d'ailleurs lié à ses compétences, c'est une question de feeling, c'est très subjectif. Et c'est pour ça que c'est difficile de conseiller un psy à quelqu'un, parce que... Moi, il m'est arrivé de le faire et je connais les compétences de la personne, ses qualités humaines, et puis en même temps, la personne me disait, moi, ça me convient pas, elle ne me convient pas. Vous voyez, donc ça, parfois, ça n'a rien à voir avec les compétences, mais avec un ressenti.
Je vois ce que vous voulez dire.
Donc, parfois, il faut un peu continuer. Est-ce que, en dehors du CMP, vous avez peut-être vu quelqu'un en privé, essayer?
Non, pas en privé, parce qu'à un moment, mes moyens ne me permettaient pas de poursuivre, de chercher quelqu'un à l'école.
Oui.
Et ma recherche s'est arrêtée là, parce que...
C'est dommage.
Oui, c'est très dommage, parce que vous, par exemple, je trouve que vous avez cette pertinence-là à partir de ce qu'on vous raconte... Ce qui fait souffrir la personne, vous le sortez, vous le mettez maintenant bien en évidence et vous en discutez avec elle, si bien que personne se sent comprise, elle se sent... Évidemment,
il y a des personnes, vous savez, Françoise, il y a certainement des personnes qui m'ont appelée aussi dans l'émission et qui ont raccroché en ne se sentant pas comprise, malheureusement.
Forcément,
depuis le temps que je... Mais oui, parce que je vous dis tout ça... Tout ça, c'est parce que d'abord, il y a des personnes que parfois je capte mieux que d'autres. Vous voyez, j'utilise ce terme. Oui, c'est un peu comme dans la vie. Il y a des personnes où ça s'ouvre. Ouais. Et parfois, bah, vous savez, l'exercice n'est pas toujours simple. Au téléphone, quelqu'un qui arrive d'essayer de comprendre ce qui est en jeu. Et en même temps, l'exercice que, à la radio, que celui que je fais, est très différent de celui qu'on fait en cabinet. Vous savez, quand je travaillais à l'hôpital, où j'avais des consultations, ou un moment en cabinet, j'intervenais beaucoup moins, lors du premier contact. Dans un premier contact, et ça me permet de dire ça aussi, dans une rencontre, lors du premier entretien, le psychothérapeute, qu'il soit psychologue ou psychiatre, en général, là, il est actif. C'est un entretien un peu même question-réponse. Déjà pour voir ce qui amène la personne, essayer de comprendre un peu quelle est sa demande. On retrace succinctement un peu son historique, sa vie, très succinctement. Le thérapeute lui-même voit ce qu'il peut lui proposer. Et donc, s'il va l'accepter aussi en thérapie, en fonction de ce qu'il peut proposer. Puis après, quand on entre dans le processus même de la thérapie, le thérapeute, c'est pas qu'il s'efface, mais sa parole se fait beaucoup plus rare.
À l'écoute, alors.
Oui, il est plus dans une écoute qui reste active, même s'il intervient peu, moins. Mais on peut ne pas trop parler et être dans une écoute active pour autant. C'est-à-dire qu'on n'est pas passif. On entend très bien ce qui est en jeu et on essaie d'intervenir à un moment pour amener peut-être d'ailleurs sur d'autres pistes, sur d'autres voies. Moi, à la radio, oui, évidemment, j'interviens beaucoup. Et je vais vous dire, on me le reproche même souvent. Je vois dans des mails, vous parlez trop. Ben oui, parce que c'est de la radio. Et dans la radio, ça s'écoute aussi. C'est-à-dire que je m'adresse à vous, mais il y a aussi tous ceux qui écoutent. Et qui vous écoutent, vous, bien sûr, les auditeurs qui témoignent. Mais si vous voulez, je n'oublie pas que c'est une émission de radio. Donc il faut qu'il y ait de l'interactivité, de l'échange. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que, voyez, vous, je suis touchée de la confiance que vous me témoignez, mais si vous m'aviez eu en thérapie, de façon vraiment dans le cadre d'une thérapie, peut-être que vous auriez trouvé aussi que j'intervenais pas trop. Et puis, vous savez, il faut dire parfois au thérapeute, j'ai besoin là de vous sentir plus présent. Parce qu'il y a des moments où on peut supporter, où justement la parole du thérapeute s'efface pour que la parole de la personne advienne. Oui, et c'est dur de parler de soi.
Ah, c'est très dur de parler de soi.
C'est dur de parler vraiment de soi.
Oui.
Et à un moment, il est possible de dire au thérapeute, j'ai besoin que vous me parliez. Parce que là, je me sens dans le vide et je me sens mal.
Mais des fois, vous me le dites, là, vous me le faites savoir, mais quand on va voir un thérapeute, on se dit qu'il est professionnel, il sait quand est-ce qu'il faut parler, il sait quand est-ce qu'il faut aider. Là, la personne, elle me semble complètement, il faut que je dise quelque chose pour essayer de faire émerger ce qu'elle a au fond d'elle, etc. Mais je comprends qu'à la radio, vous êtes là aussi pour animer.
C'est une émission. Mais vous savez... Je trouve, parce que je trouve ça permet, je vous remercie, parce que ça permet de dire aussi des choses autour de la thérapie et que l'exercice en radio est très différent. Oui. En revanche, l'interrogation que vous avez, vous, où vous cherchez à comprendre, et qu'est-ce qui fait que pendant 30 ans, c'est comme si vous aviez été pétrifié dans l'incapacité d'agir et de réagir, comme si finalement vous étiez un peu dépersonnalisé. Alors que vous sentez que votre personnalité profonde, elle est toujours là. Et que votre personnalité profonde, vous me dites, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, qui a de la gaieté, de la spontanéité, tout le contraire de votre mari. Mais ça, il n'a pas pu le tuer. Il n'a pas pu l'anéantir. Il faut souffler un peu dessus pour le ranimer. Et moi, je vous encourage vraiment, Françoise, à aller entreprendre à nouveau une démarche. Parce que sinon, vous risquez de continuer à vous faire mal autrement en vous culpabilisant. De ne pas avoir pu sortir de cette relation.
Ah oui, ça c'est vrai.
Ça, tourne à la, ça peut tourner à la rumination. Alors oui. Que ça a un sens.
Oui, oui.
Et seul, vous savez, à un moment, on tourne un peu à vide ou on ressasse toujours les mêmes choses.
Surtout quand on est seul, quand on arrive à un certain âge, on remet un peu, on fait un peu...
Oui, le bilan de sa vie, et ce bilan peut être douloureux. Oui. Alors qu'il y a aussi... Il y a aussi des choses qui ont été positives et peut-être que vous avez tenu autrement. En tout cas, vous avez tenu puisqu'il n'a pas réussi à éteindre votre personnalité.
Oui, c'est vrai ce que vous dites, Caroline, parce que je sais qu'au fond de moi, au fond, au plus profond de moi, on ne peut pas complètement m'anéantir. J'ai quand même une force qui est là, qui demeure oui. en moi et qui m'a permis, comme vous dites, de tenir malgré tout. Mmh. Combien de fois il a essayé, avec tous les moyens qu'il pouvait, de que je me sente, voilà, je suis coupable de ce qui arrive, me rendre responsable de ce qui ne va pas, etc. Et je lui disais toujours comme ça, je bougeais mon doigt, je lui disais, c'est pas la peine, tu n'arriveras jamais à m'atteindre complètement. Tu vas pas m'anéantir, je te laisserai pas faire.
Voilà. Et vous avez raison, donc allez parler, et puis vous savez, vous pouvez aller voir, vous disiez l'absence des petits revenus, vous pouvez aller voir, il y a des psychiatres qui font des psychothérapies, qui font pas D'accord. que de la prescription, et là vous pouvez avoir une prise en charge par la sécurité sociale, demandez peut-être à votre médecin traitant, ça en vaut la peine, vraiment, parce que votre interrogation, elle est importante, Françoise. Donc ne restez pas seule avec cela. Je vous embrasse.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir, Françoise.